Au sommaire de ce journal, 77 jours de génocide à Gaza, le bilan de l'agression israélienne dépasse les 20 000 morts, plus de 400 Palestiniens tués en 2 jours. Le vote sur un projet de résolution appelant au cessez-le-feu à Gaza encore reporté au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis l'Iran appelle la communauté internationale à prendre des mesures décisives face au carnage incessant d'Israël à Gaza. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Jour 77 du génocide israélien à Gaza, où les Palestiniens sont confrontés à un cauchemar d'effusion de sang sans fin, le nombre de morts augmente d'heure en heure. Les dernières attaques ont visé les villes de Rafah, Khan Younes et Jabalia, tuant des dizaines de Palestiniens. Au cours des 2 derniers jours, les bombardements israéliens ont coûté la vie à environ 400 personnes et ont blessé des centaines d'autres. Le nombre total de Palestiniens tués depuis le 7 octobre a dépassé les 20 000, pour la plupart des femmes et des enfants. Le Conseil de sécurité de l'ONU a une fois de plus retardé le vote d'une résolution sur le génocide en cours à Gaza. Le Conseil de sécurité devrait maintenant se réunir plus tard vendredi pour adopter une résolution appelant à augmenter l'aide humanitaire à Gaza. Le vote a été retardé à plusieurs reprises cette semaine car les États-Unis se sont opposés au projet de résolution initial qui appelait à une cessation durable des hostilités. L'Iran appelle la communauté internationale à prendre des mesures décisives face au carnage incessant d'Israël à Gaza. Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme que la communauté internationale, en particulier l'Organisation de la coopération islamique, doit prendre des mesures décisives face au carnage incessant d'Israël à Gaza. Hossein Amir Abdollahian s'est entretenu avec le chef de l'OCI, Hossein Ebrahim Daha. Le plus haut diplomate iranien a déclaré que le meurtre par le régime de femmes et d'enfants innocents à Gaza constituait un crime contre l'humanité équivalait à un génocide. Le ministre iranien a souligné la nécessité d'œuvrer pour fournir davantage d'aide médicale au territoire palestinien déchiré par la guerre. L'ambassadeur permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a mis en garde contre toute action provocatrice de la part d'Israël, affirmant que de telles mesures pourraient avoir de graves conséquences sur la paix et la sécurité en Asie occidentale. Amir Saidi Ravani s'adressait à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Syrie. Il a condamné les fréquentes attaques d'Israël contre ce pays arabe et Ravani a déclaré que le régime est engagé dans des actes de terrorisme et d'agression à l'intérieur des frontières syriennes et cible intentionnellement les civils et les infrastructures critiques. L'envoyé iranien à l'ONU a exhorté le Conseil de sécurité à condamner les frappes israéliennes contre la Syrie. Les Yéménites sont descendus dans la rue par milliers dans une nouvelle démonstration de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Les manifestants se sont rassemblés dans la ville de Saada. Dans le nord du pays, ils ont scandé des slogans contre le régime israélien et son principal soutien, les États-Unis. Les manifestants ont exprimé leur soutien aux opérations militaires menées par l'armée yéménite en représailles au génocide en cours à Gaza. Ces opérations comprenaient des attaques de missiles et de drones contre les positions israéliennes. Les attaques ont également visé les navires du régime ou à destination d'Israël dans la mer Rouge et la mer d'Arabie. Enfin, la branche militaire du mouvement de résistance palestinien Hamas a publié de nouvelles images montrant 3 prisonniers israéliens détenus à Gaza, tués lors des frappes aériennes du régime. Le porte-parole des brigades Al-Qassam a déclaré que les captifs avaient été tués malgré les efforts déployés pour préserver leur vie. Abu Baïda a déclaré qu'Israël devait cesser ses attaques pour sauver ses captifs. Il a déclaré qu'Israël devait accepter les conditions proposées par la résistance. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Pourquoi une alliance de 10 pays dirigée par Washington en mer Rouge est de facto vouée à l'échec ? Les tensions sont vives en mer Rouge, dans un contexte d'attaque militaire yéménite, contre des navires se dirigeant vers les territoires occupés de la Palestine, sans oublier le projet de la formation dans cette mer d'une coalition maritime anti-yéménite et dirigée par Washington. La marine américaine est déjà largement présente dans les eaux du Golfe Persique, à des milliers de kilomètres des frontières américaines, ainsi que dans la vitale mer Rouge et à proximité du détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Depuis que le régime israélien a lancé sa guerre génocidaire contre la bande de Gaza assiégée le 7 octobre, les Américains ont exprimé ouvertement et cyniquement leur soutien au régime israélien en lui fournissant une importante réserve de munitions ainsi qu'un soutien politique. Ce que Washington n'a peut-être pas pris en considération, c'est la position historique du mouvement de résistance Ansar Allah du Yémen à l'égard de la Palestine et la cohésion croissante au sein de l'axe de la résistance. Le Pentagone ne s'attendait certainement pas à ce que les Yéménites se lèvent et refusent d'être des spectateurs muets du génocide qui se déroule à Gaza, menant une série d'attaques contre des navires liés à Israël et imposant un embargo sur les navires tentant d'accoster dans les ports palestiniens occupés par Israël. Ce qui a encore pu choquer les élites américaines, c'est le fait que les Yéménites ont réussi à faire respecter l'embargo et à forcer les grandes compagnies maritimes à éviter la mer Rouge et à détourner leurs navires vers d'autres routes, affirmant ainsi leur autorité sur cette étendue d'eau stratégique. Essentiellement, cela a rendu la voie navigable par laquelle une grande partie du pétrole mondial est expédiée de l'Asie vers l'Europe extrêmement coûteuse, augmentant les prix des assurances tout en ajoutant 12 jours supplémentaires pour atteindre leur point de destination. Les mesures militaires yéménites ne reposent pas sur une rhétorique vide de sens, mais sur une véritable action militaire de soutien aux Palestiniens. Les Yéménites ont démontré ce qu'implique concrètement la solidarité et le soutien. Au début, Washington a beaucoup discuté avec les partenaires de la région pour éviter que la guerre ne s'étende, comme l'avaient prévenu de nombreux acteurs régionaux. Jamais en un million d'années, les États-Unis n'auraient cru que la guerre pourrait potentiellement s'étendre au Yémen. La question est de savoir si les États-Unis possèdent les porte-avions et les groupes d'attaque les plus avancés au monde. Pourquoi ont-ils besoin d'une alliance de 10 nations pour combattre la menace militaire d'une nation arabe pauvre? Pourquoi ne pas envoyer le secrétaire américain à la Défense à Bahreïn et annoncer une alliance régionale impliquant des pays comme l'Arabie saoudite et l'Égypte? Cela le rendrait légèrement plus légal aux yeux de la communauté internationale, dans la mesure où militariser une partie du monde sans un vote du Conseil de sécurité de l'ONU est illégal. La première pierre d'achoppement pour les États-Unis est que l'Arabie saoudite et l'Égypte, qui partagent également une partie de la mer Rouge, ont refusé de rejoindre l'alliance anti-Yémen. Les deux pays disposent de forces navales et de capacités militaires supérieures à celles du Yémen et sont géographiquement plus vastes. Concernant Riyad, c'est le signe que le royaume n'est pas intéressé à ce stade par un quelconque accord de normalisation avec le régime israélien et par le fait que les Saoudiens ont déjà vu de quoi les Yéménites sont capables. Et que l'Arabie saoudite fasse obstacle au plus grand mouvement qui fait pression sur le régime israélien pour qu'il mette fin à sa guerre contre Gaza ne serait pas la meilleure démarche de relations publiques pour Riyad. N'oublions pas que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, soutenus par les États-Unis, ont mené une guerre de 8 ans contre la résistance yéménite et ne veulent sûrement pas revenir à Aramco 2019. Et n'oublions pas non plus que l'Égypte n'a pas participé à la coalition régionale mise en place par les Saoudiens pour combattre Ansar Allah en mars 2016, car ce pays avait alors fait remarquer à juste titre que cette guerre n'aurait pas de fin. L'idée de la formation d'une alliance dirigée par les États-Unis dans la mer Rouge ne s'est pas faite du jour au lendemain. Washington a passé la majeure partie du mois dernier à négocier indirectement avec Ansar Allah via le sultanat d'Oman pour mettre fin aux attaques contre des cibles liées à Israël en mer Rouge en échange d'une liste de faveurs. Il s'agit notamment de la réouverture complète de l'aéroport de Sanaa, du port de Hudaïda, du paiement des salaires des fonctionnaires ainsi que d'autres incitations. La résistance yéménite les a toutes rejetées et a déclaré publiquement et en privé qu'elle ne mettrait fin à l'embargo de la mer Rouge contre les navires qui servent les intérêts israéliens que lorsque le massacre des civils à Gaza cesserait. Le Yémen ne vient d'une autre planète, ni d'Asie de l'Est, ni d'Afrique. C'est l'un des pays partageant la mer Rouge et il a le droit légal de prendre des mesures légitimes dans les eaux proches de ses frontières. La deuxième pierre d'achoppement pour l'alliance maritime américaine est qu'elle ne peut rallier aucun État islamique ni aucun État arabe à l'exception de Bahreïn. La question de savoir si Bahreïn a la souveraineté de prendre ses propres décisions ou si les États-Unis prennent ces décisions pour cette petite monarchie arabe est un sujet de débat pour un autre jour. Ce qui est clair, c'est que Bahreïn ne dispose pas d'une force navale capable de fournir quoi que ce soit. Pour les États-Unis d'Amérique, l'idéal aurait été d'avoir des pays de la région dans son alliance pour tenter publiquement de se distancier du régime israélien. Il était de la plus haute importance pour Washington d'essayer de se présenter comme ne prenant pas parti pour le régime israélien et limitant le problème au trafic maritime de la mer Rouge, mais il n'y est pas parvenu. Où sont les pays islamiques dans cette alliance ? Il n'y en a pas, ce qui constitue un nouvel échec pour les États-Unis et leurs alliés occidentaux qui cherchent à s'en prendre aux Yéménites. Même les forces séparatistes du sud du Yémen qui combattent le mouvement de résistance Ansar Allah ne sont pas opposés à ces attaques contre des navires liés à Israël. Les pays qui ont rejoint la force navale, dite multinationale, dirigée par les États-Unis en mer Rouge, comprennent le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles et l'Espagne. Pourquoi utiliser le terme multinational alors qu'il est tout sauf multinational ? C'est un signe à la fois de faiblesse et de désespoir des États-Unis. Les navires de guerre américains ont également été la cible de drones et de missiles yéménites. Voilà à quel point les États-Unis et leurs enfants illégitimes à Tel Aviv sont isolés dans leur guerre contre Gaza et maintenant ils veulent s'attaquer au Yémen malgré leurs tentatives et leurs échecs depuis mars 2015.